Bienvenue à Montréal, mon nom est Patrick Talen, je suis concepteur de jeux ainsi que producteur et animateur de ce nouvel épisode de Poutine à deux. Donc ce soir, nous allons aller manger de la poutine, cette fois-ci avec Yann Deschenaux qui est un artiste de capture ainsi qu'un monteur vidéo chez Ubisoft Montréal. À titre de référence, Yann a pris part à la mise en marché très récente de Far Cry 5. Et là où ça revêt une connotation particulièrement intéressante pour ce soir, c'est que j'ai tout simplement grandi avec Yann. Donc oui, Yann et moi, nous sommes rencontrés lors de l'adolescence. Nous allions à la même polyvalente. Une polyvalente, ça du temps passant, pour nos auditeurs européens, c'est l'équivalent d'un lycée, mais dans le système public québécois. Et bon, comme vous pouvez vous douter, adolescence oblige, nous avons partagé des fois des intérêts communs, donc nous avons bien aimé les jeux vidéo, nous avons grandi, et bon, la vie étant ce qu'elle est, nous avons chacun pris nos chemins au début de la vie adulte. Qu'est-ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de Yann, c'est que Yann a pris le bord du cinéma, tandis que moi j'ai été plus dans le domaine du multimédia et ensuite jeux vidéo. Mais surprise, Yann éventuellement a aussi débouché en jeu vidéo et c'est ce que nous allons parler ce soir. Donc, comme mentionné, Yann est du côté de la promotion, particulièrement du côté vidéo. Donc, évidemment, moi, je vais être tenté vraiment de parler de son éducation au cinéma et comment ça informe maintenant son boulot en jeu vidéo. On serait tenté de croire des fois qu'il y a des grandes différences entre les deux médiums, mais je serais vraiment intéressé d'explorer les points communs. Ensuite, il a travaillé sur Far Cry 5 récemment. Far Cry 5 a vraiment attiré l'attention de beaucoup de personnes pour plusieurs détails, donc je veux évidemment couvrir ces points-là. Et on va se dire la vérité, dans le cas de Yann, si on regarde sa feuille de route, c'est son troisième Far Cry, donc il a pris part à Far Cry 4, Far Cry Primal et maintenant Far Cry 5. Donc je veux savoir qu'est-ce qui a amené de nouveau dans Far Cry 5, en quoi sa démarche était différente. Là, je vous avoue que je commence à avoir terriblement faim, donc je vais prendre tout mon matériel, foutre ça dans mon sac et prendre la direction du restaurant. Donc oui, nous voilà déjà avec Yann, ironiquement, au restaurant. Donc ça va bien, Yann?
Ça va très bien. Toi, Patrick?
Oui, absolument. On va être quand même assez transparent. On a mangé avant de commencer l'émission.
Il en reste encore un peu.
Oui, oui. Il y a un fond, histoire qu'on se fasse pas interrompre puis se chasser à l'extérieur du restaurant. On va parler de ton choix de poutine, Yann, parce que bon, ça s'appelle Poutine à deux. Il faut parler de poutine.
OK. Alors moi, j'ai pris la poutine curry poulet.
OK.
Très bon, une petite épice en bouche.
Oui.
La sauce est un peu... est un peu trop liquide, mais écoute, c'est pas grave. Ça reste délicieux.
Très bien.
Des oignons caramélisés sur le dessus.
C'est bon. Qu'est-ce qui t'en a à ça, Yann?
À la poutine au,
au curry.
En fait, c'est qu'il y a vraiment une très bonne poutine au curry au McKibbins.
OK.
Puis là, je me suis dit que ça fait longtemps que je l'avais pas mangé, puis j'avais envie de regoûter à une poutine au curry.
Malheureusement, probablement la majorité de nos auditeurs ne sont pas familiers avec qu'est-ce qu'est le McKibbins.
En fait, c'est un pub irlandais qui serve la poutine. Fait que c'est un peu fusion entre l'Irlande et le Québec.
Et celui-là n'a pas pogné en feu récemment.
Non, celui-là n'a pas pogné en feu récemment.
Oui, parce qu'il y a eu une vague de feux de pub, là. C'est, c'est assez éprouvant. Sinon, de mon côté, j'ai été un peu plus conservateur, traditionnel. C'est ennuyant, j'en conviens. Mais bon, moi, il y avait du bacon et des oignons. Puis bon, après ça, une poutine régulière. J'appréciais quand même, je voulais quelque chose de confortable. On est vendredi, Yann, faut pas me pousser à bout. Là,
tu sais. Des trucs un peu trop spéciaux.
Non, c'est ça. Hein. Je commence à me faire vieux, on va se dire la vérité.
Ça tentait pas la galvaude?
Ça, c'était trop conservateur et je vais être honnête avec toi, des petits pois dans une poutine, ça n'a jamais marché dans ma tête. Je sais pas si c'est une position différente à propos de la galvaude ou...
On va pas rentrer, là, ça commence à être politique comme sujet,
oui.
Pat.
Oui, on va essayer d'éviter ça pour cette entrevue-là. Donc, Yann, on t'a déjà eu, les jeux sont faits. Donc, on avait parlé un peu de ta genèse, mais on va le faire encore une fois. Tout à coup, les auditeurs n'aient pas écouté cette émission-là. D'abord, honte à eux, mais ensuite, on va continuer. Yann, corrige-moi, mais tu as déjà été un petit garçon.
J'ai déjà été un petit garçon venant d'un petit village.
Qui s'appelait?
Il s'appelait Pierreville.
On salue les gens de Pierreville, d'ailleurs.
Ça part beaucoup d'auditeurs de Pierreville, mais oui, on salue les gens de Pierreville, en effet.
Tu dis ça, mais sur mon autre émission, Les Jeux sont faits, une fois, j'ai vraiment dit de la merde sur Saint-Angèle-de-Laval, le village d'où je viens.
Ouais.
Puis, soit dit ça en passant, dans le Chem du Québec, pour nos, les auditeurs, c'est un petit village. Là. C'est un truc, une moucheté à côté de Trois-Rivières. J'ai eu des gens qui m'ont réécrit en disant « Hey, t'as dit de la merde sur Saint-Angèle-de-Laval, j'habite à Saint-Angèle-de-Laval. » Donc, ça peut arriver, donc on va faire quand même attention.
Donc, on va saluer les gens de Pierreville qui sont des grands auditeurs.
Exactement. On a peut-être des auditeurs chez Guild. Actuellement, est-ce que chez Guild existe encore?
Oui, mais malheureusement, ils sont reconvertis, je crois, en linge de chasse.
OK.
Je pense plus qu'il y a de jeux vidéo à louer chez Guild.
C'est ça.
Il était aussi appelé au coin du pont parce qu'effectivement, il se trouvait au coin du pont.
C'est ça. Puis dans le contexte de Pierreville, chez Guiz, c'était vraiment la boutique où tu allais louer tes jeux.
Oh, c'était la seule place qu'on pouvait louer des jeux à Pierreville. Il y avait Vidéo Expert à une certaine époque.
Oh!
Où est-ce qu'on pouvait en plus louer du temps de Super Nintendo.
Oh!
Qui avait genre un petit garde-robe, il débarrait la porte. Là, tu pouvais jouer là pendant une heure ou deux.
C'est cool.
Mais ça n'a pas duré longtemps. Fait que Guiz était notre seule source de location de jeux vidéo.
Tout le monde faisait des trucs bizarres dans le placard à Super Nintendo, ouais.
Pas que je sache.
Ah, bref, on va essayer d'être professionnel, mais Yann, tu as déjà eu une enfance, tu as probablement eu une enfance avec des jeux vidéo, corrige-moi.
En effet, oui.
Quels étaient les jeux qui t'ont marqué pendant la dite enfance?
J'ai commencé à gamer comme tout bon trentenaire sur le premier Nintendo 8-bit, là, fait que Mario, Duck Hunt, le classique, là. Mais mettons, dans les jeux que j'ai plus choisis, parce qu'à cette époque-là, je veux dire, t'avais un jeu puis tu restais dedans.
Te l'imposais, là.
Ben, en fait, tu peux pas en acheter d'autres.
OK.
Ça devait être beaucoup trop cher. En tout cas, mes parents voulaient pas m'en acheter d'autres. Fait que j'avais un jeu avec ma console.
On les salue, d'ailleurs.
Mais sinon, Super Nintendo, j'ai beaucoup commencé avec les jeux de stratégie. C'est un peu drôle, mais genre Civilization, Populous, je sais pas si tu viens de
sur Super
jeux-là.
Nintendo?
Ouais.
T'aimais ça, t'as fait mal, mais je t'en prie, continue.
Non, mais à l'époque, on comprenait pas que c'était lent.
Oui.
La vitesse était une autre notion. SimCity aussi beaucoup. Je pense qu'on dirait que les jeux de stratégie, simulation, gestion m'intéressaient.
Qu'est-ce qu'il allait te chercher là-dedans? C'est du côté quasiment en bloc Lego, tu bâtis ta ville.
Oui, un peu ça. Construction. Ouais. C'était des jeux un peu plus libres, on s'entend. Là. Aujourd'hui, t'as des trucs qui sont méga open world ou même Minecraft qui sont totalement libres. Mais à l'époque, on dirait que c'est comme plus un univers que tu fais te créer toi-même. C'est ça qui était le fun. Tu sais, même avec les tycoons, puis ce truc-là un peu plus tard. Là.
Je me rappelle bien, t'avais un Mac, en fait. Tout était une famille de Mac chez toi.
En plus, oui.
Es-tu tombé là-dedans quand t'as eu un Mac ou...
En fait, quand j'ai eu un Mac, j'avais deux jeux, Warcraft 2 puis Starcraft.
OK.
Puis je te dirais que ça a été genre mon gaming experience sur PC.
Mais c'est quand même deux jeux très iconiques, oui, avec une grande durée de vie, ça valait la peine. Puis sinon, l'autre affaire qui m'avait marqué, t'avais l'air quand même d'être un gros fan des RPG japonais sur Super Nintendo.
Oui, quand même. Mais on dirait que c'est comme un classique à l'époque. Là. Il faut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de jeux. Parce qu'on... Mais c'est quand même un classique. Chrono Trigger, Earthbound beaucoup aussi.
Mm-hmm. Ben justement, Earthbound, ça avait l'air d'avoir été un jeu qui t'a marqué. Y avait-tu une raison? Pourquoi?
C'est surtout, je pense, l'univers qu'il avait réussi à créer. C'est comme une espèce de... T'sais, c'était pas fantastique, ça venait pas d'un autre monde. C'est, ben oui.
Pas un magicien. Ouais.
Éventuellement, oui, on va pas spoiler le jeu.
En quelle année ça a sorti Earthbound? Honnêtement, il y a des gens qui sont peut-être nés après Earthbound qui écoutent actuellement. Donc,
Mais non, c'est vraiment cool. C'est une approche très réaliste dans un sens. Là,
mais ça va sonner prétentieux, mais post-moderne même.
Ouais, peut-être
dire.
Un peu.
Ouais.
Ça avait vraiment une approche artistique différente de ce qu'on voyait.
Mm-hmm.
Tu sais, c'était pas médiéval. Tu sais, il y avait beaucoup de jeux médiévaux fantastiques à l'époque, on dirait. C'est comme la norme.
Oui, non, absolument. Dès qu'on parle de RPG japonais, ben on parlait de Chrono Trigger. Quoi qui tombait dans la modernité un peu aussi ensuite.
Non, mais tu sais, genre steampunk un peu. Mais tu sais, c'était tout le temps fantastique. Là, c'était comme, t'étais juste un petit gars avec un vélo, puis t'étais lâché des hamburgers, puis ton père t'envoyait de l'argent par téléphone.
Oh là là, quel rêve, quelle utopie. Et sinon, après ça, tu tombais dans d'autres jeux à l'époque du secondaire, tout ça, parce que bon, nous autres, dans notre cas, on va dire la vérité, il y a eu du Super Nintendo au début du secondaire, mais après ça, il y a eu cette satanée 3D qui est apparue. Dans ce temps-là, est-ce qu'il y avait eu des jeux qui ont été cherchés?
Je te dirais, mettons qu'on tombe à la période 3D, tu sais, Golden Eyes, Perfect Dark, Time Splitter, mais ça, c'est un peu plus tard, Time Splitter, là. Mais les first-person shooters, genre, j'ai embarqué là-dedans en fond, mais c'est surtout le côté compétitif qui m'intéressait. Là, on pouvait jouer à 4 en même temps, genre couch co-op, puis PVP. Je sais pas, ça s'appelait pas PVP à l'époque.
Non, il n'y avait pas de terme à l'époque pour ça. C'était comme The Man with a Golden Gun ou Death
Non, Man, c'est ça, vois. Mais le côté compétitif des first person m'a vraiment intéressé. Puis c'est le fun en même temps. Tu joues en gang. Mario Party aussi, on a joué beaucoup. Tout ce qui était genre, tu jouais avec tes amis, t'arrivais dans un salon, t'étais genre 5-6, puis genre let's go.
Mm-hmm. Là-dedans, justement, c'est probablement GoldenEye. Moi, je me rappelle dans le temps, c'était GoldenEye vraiment.
Smash aussi, quand même, beaucoup. Smash, ouais, genre, ça le joue. On a tellement joué à ça pendant mon cégep. Là. On faisait des tournois quasiment à chaque jour. On était deux apparts avec des amis. On avait deux 6,5 comme côte à côte avec un corridor. Fait qu'on faisait des tournois de Smash à pu finir.
Ouais, c'est parfait, man. Puis là, justement, après ça, est-ce que t'es embarqué dans d'autres jeux? On va parler de ton évolution professionnelle, puis bon, d'éducation tantôt, mais après ça, dès que t'as commencé
mais
à être
un côté jeu, tu sais, j'ai joué beaucoup à mon cégep. Après ça, quand j'ai commencé l'université, on dirait que j'ai mis un peu ça de côté. Tu sais, avec les études, puis tout en cinéma, je faisais, tu sais, au lieu de jouer à les jeux vidéo, je faisais des tournages, je faisais des projets. Fait que j'ai comme une espèce de période morte, si on veut. J'ai
le médium était plus assez bon pour toi, je comprends bien.
Exactement. Ça rejoignait pas mes aspirations, tu sais. J'étudie en cinéma, j'ai un bac en beaux-arts, fait que j'étais comme, ah, oh, c'est un jeu vidéo, c'est vulgaire.
Oui.
Mais non, puis j'ai racheté. Tu sais, j'ai comme passé de Nintendo 64 à PlayStation 3.
Oh boy, ok, ouais.
Fait que j'ai, j'ai joué un peu à Guitar Hero, mais ça, okay. C'était la folie furieuse.
Tout le monde y a passé.
Mais j'ai recommencé à gamer sur PlayStation 3. Puis encore là, je suis retombé tout de suite dans les first-person shooters. Je suis un gros fan de Battlefield. J'ai joué à Far Cry aussi.
Surprenant.
Super bon jeu, Far Cry 3.
Oui.
Sinon, je sais pas, qu'est-ce que je jouais sur Mass Effect. Les gros jeux surtout. Là.
Oh oui.
Tu sais, je jouais plus de temps en temps. Tu jouais pas régulièrement. Fait que je prenais les gros jeux qui sortaient, ce que le monde me disait qui était vraiment cool. Puis c'est ça que je gamais.
Puis sans vendre de la mèche, bon, ensuite, t'es rentré dans l'industrie du jeu. Surprenant, considérant le thème de l'émission. En tant que développeur, as-tu tombé sur d'autres jeux ensuite? As-tu l'impression que ça a développé ton appréciation peut-être des types de jeux un peu plus saugrenus?
En fait, je suis surtout tombé dans les jeux indie. On dirait que le fait de travailler dans des AAA, tu sais, j'ai joué à tous les jeux d'Ubisoft parce que c'était facile d'accès puis c'était le fun, là, mais genre, d'un côté plus personnel, parce que tu sais, jeux d'Ubisoft, je joue des fois sur l'heure du midi au travail, on a accès, fait que, ou le soir, quand ils viennent de sortir, des trucs comme ça. Là. Mais d'un côté personnel, j'ai surtout été dans les jeux indie, tu sais, avec le PlayStation Network, quand t'es abonné, ils donnent des jeux une fois de temps en temps. Là. C'est surtout des jeux indie. Fait que ça, il y a vraiment des perles. Puis tout le temps, c'est pour revenir à Scarebound, c'est comme des approches un peu différentes, tout le temps un peu intrigantes. Fait que.
Mm-hmm.
C'est ça qui m'intéressait surtout dans ces jeux-là. Là.
Justement, dans les jeux que tu joues, est-ce qu'il y a des traits dominants? Parce que je me rappelle la dernière discussion qu'on avait eue. Bon, ce qui avait sorti, étonnamment, le côté narratif, ça allait souvent te chercher. C'est quelque chose qui t'engageait. Entre-temps, y a-tu d'autres types de jeux, d'autres types de mécaniques qui ont été cherchées?
C'est drôle parce que, tu sais, présentement, le côté narratif en jeu vidéo m'intéresse un peu moins.
Okay.
C'est un peu drôle, mais tu sais, c'est quand même un truc qui m'intéressait. Mais présentement, je suis vraiment intéressé par les jeux d'ambiance. Tout ce qui réussit à recréer genre, des atmosphères puis des ambiances un peu spéciales puis qui réussit à te surprendre en créant un nouveau monde ou un truc qui sort de la réalité ou des fois que c'est juste comme un petit peu off, mais il y a Firewatch.
Firewatch, oui, qui se passe étonnamment aussi en forêt aux États-Unis.
Oui, c'est ça, sûrement pas loin du Montana.
Oui.
Mais l'ambiance, c'est très narratif comme jeu, mais l'ambiance qu'ils ont réussi à créer, tu sais, dans le fond, ce qui est cool, c'est que tu vois jamais aucun autre humain dans le jeu. T'entends des sons plus loin, t'es tout le temps dans l'ambiance. T'as un appareil photo, tu peux juste prendre 10 photos pendant que tu fais ton. Pendant que tu joues, puis à la fin du jeu, t'y revois toutes. Fait que c'est vraiment cool. Moi, au début, je pensais que c'était vraiment important. Fait que je faisais vraiment attention à ce que je prenais en photo, là, prendre genre les indices ou. Mais tu vois, ça, c'est un truc intéressant que je trouve dans les jeux vidéo, c'est qu'ils ont développé une mécanique qui sert. Pas nécessairement au jeu, mais qui t'amène une espèce d'immersion différente ou un truc un peu plus expérimental ou artistique.
D'une certaine manière, la manière dont tu en parles, tu disais que c'était un truc apparemment important pour toi qui revêt une certaine importance, puis c'est toi qui as injecté l'importance là-dedans.
Exactement. Il y a sûrement du monde qui ont joué, puis ont juste comme pris, je pense, c'est 10 ou 15 photos,
ouais.
Genre au début, puis oh, that's it.
Ouais,
mais c'est un jeu qui a des mécaniques intéressantes. T'sais, tu pouvais bouger les objets, puis en prendre, puis les lancer, puis au bout de la ligne. Ça servait pas nécessairement à grand-chose côté gameplay, mais ça amenait comme un espèce de... C'est pas trop qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu sais, le jeu te surprend, dans le fond.
Oui.
Tu sais, contrairement à des jeux plus AAA, où est-ce que si je vais libérer cet outpost-là, ben, je vais avoir des sidequests qui viennent avec.
Oui, c'est ça. Ouais, j'ai un fusil à pompe, puis oh, c'est pour atteindre les personnes à proximité de moi. Non, c'est
ça. On me donne un sniper, ça va sûrement être une mission, parce qu'il faut que je m'en serve. Là.
Exactement. Non, c'est ça. Ça utilise vraiment des codes différents. Sinon, on va parler un peu de ton cheminement quand même. Ça risque de motiver un peu le contenu d'ensuite, on va se dire la vérité. On l'a sous-entendu, bon, t'as été dans le domaine plus du cinéma avant. Nous autres, on se connaît depuis le secondaire. Même dès le secondaire, corrige-moi, t'étais beaucoup dans le cinéma. Avais-tu fait des cours à l'époque?
Non, il n'y avait pas de cours à l'époque, là, mais on avait... la grand-mère d'un de mes amis avait acheté une caméra mini DV.
Oh, mon Dieu!
Fait qu'on restait genre plus tard à l'école pour faire des films. Mais
quel genre de film tu faisais, Yann?
J'aimerais mieux pas en parler.
Mais... Non, mais...
Pas que c'est gênant, mais genre c'est...
Mais c'est gênant.
C'est genre des parodies d'Indiana Jones dans le gym de l'école ou genre... On répétait un peu ce qu'on voyait à la télé. Là, on faisait des parodies de Star Wars. Ou,
okay.
Mais ça avait, c'était tout le temps dans un contexte scolaire parce qu'on était à l'école pour filmer.
Oh oui.
Fait qu'on mettait un ton sépia, puis la salle des lockers devenait genre une grotte souterraine. Puis
que d'imagination. Et ensuite, au cégep, as-tu continué là-dedans? Ça, on s'est perdu malheureusement parce que moi, j'étais parti de mon côté à Québec.
Oui, dans le fond, au cégep, j'ai continué. J'ai fait un diplôme d'études collégiales en cinéma pour pouvoir rentrer à l'université en cinéma. Dans le fond, après le secondaire, j'ai juste continué en cinéma pour cégep et université.
Dans ce temps-là, ça peut être une discussion bizarre, mais allons-y. Dans ce temps-là, c'était quoi les visées pour toi?
Oh, c'est encore vague. Hein. Tu sais, je savais que j'aimais faire des films, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire plus tard dans la vie.
Okay.
Puis, tu sais, même aujourd'hui, je me pose encore la question où est-ce que je veux vraiment faire dans 10 ans.
Et ça va vraiment donner une bonne entrevue, tu m'encourages.
Mais tu sais, je suis quelqu'un de projet. Fait que,
oui.
Les projets de faire des films, j'aimais ça. Puis il fallait choisir de quoi au cégep. Puis comme, go, genre, c'est le fun, j'aime ça. Mm-hmm. Puis on dirait que ça a juste comme fait ça, un truc amène un autre truc. Puis ça fait genre... boule qui roule, puis...
Justement, ben, les trucs que t'avais fait dans cette époque-là, cégep, université, corrige-moi, t'avais fait un peu des films de guerre, notamment?
Ouais, j'ai fait une couple de films historiques, on a fait des films de super-héros, des films expérimentaux, des trucs, on a même... T'sais, ce qui était le fun, c'est qu'on a vraiment exploré plein de sujets, là, genre documentaire, fiction, film expérimental, ouais, je l'ai dit tantôt, mais...
Mm-hmm.
Genre, il n'y avait pas de limite, là. C'est cool. Là.
À l'époque, y avait-tu quelque chose, un genre qui t'avait particulièrement marqué?
Non, c'était surtout plus pour, je te dirais, la forme, genre juste d'explorer des nouvelles approches. Dans le fond, tu fais un film de guerre, fait que tu dis, ah, je vais essayer avec un ton sépia, puis genre des longs plans, puis ah non, mais je vais faire un truc plus super-héros. Fait que là, tu vois, avec les codes de genre de générique, avec full de grosse musique, genre des effets spéciaux, puis...
OK, c'est super intéressant. Puis bon, après ça, c'est ça. T'as été en Concordia en cinéma, je m'en rappelle bien. Puis après ça, t'as bossé un peu là-dedans. C'était plus de la post-prod que tu faisais dans le temps?
En fait, j'ai fait beaucoup de trucs en sortant de l'université. Tu sais, quand tu es université en cinéma, t'as pas comme une job spécifique pour s'en va travailler. Là,
tu vas pas réalisateur en partant.
Exactement. Ouais. T'as une expérience, puis après ça, genre, tu fais ce que tu veux avec ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait du corpo, du vidéoclip. Je prenais ce qui passait, dans le fond. J'ai fait de la post-prod, comme tu disais. J'ai fait du montage sonore. J'ai fait de la caméra, de la réalisation. Mais, tu sais, rien de... J'avais pas encore de voix, genre, dans ce que je voulais faire.
Mm-hmm.
Je savais que j'aimais encore le médium, mais je sais pas ce que je voulais m'en aller avec ça encore.
OK. Puis comment Ubisoft est arrivé dans cette histoire-là?
En fait, c'est un peu drôle. Ubisoft, c'est arrivé que j'avais des amis qui ont été engagés là.
Mm-hmm. On les salue d'ailleurs. Bonsoir Maxime.
Ils sont présentement à PAX à Boston pour représenter Far Cry 5.
Et contracter une grippe probablement.
Sûrement. Mais dans le fond, j'ai des amis qui étaient rentrés chez Ubisoft qui eux sont rentrés par d'autres amis qui sont rentrés par d'autres amis. Mm-hmm. Ça marchait un peu comme ça à l'époque.
Oui, prenez des notes les enfants.
Ayez beaucoup d'amis. Dans le fond, je suis rentré comme testeur au début, mais je savais que Ubisoft laissait de la place pour genre des artistes vidéo.
Mm-hmm.
Tu sais, qu'il y avait des trailers qui se faisaient à l'interne, il y avait des vidéos, puis il y avait un besoin pour ça. Fait qu'en vrai, comme testeur, moi, j'ai genre voulu tout de suite pousser, genre, je serais capable de faire du vidéo, puis j'essayais d'en faire, genre, quand j'avais un peu de temps libre ou les soirs, je restais pour pousser ça, pour développer, genre, cet aspect-là du travail, là. Parce que, en rentrant comme testeur, genre, c'était pas dans mon mandat de base d'en faire, là.
Comment tu fais ça dans le contexte du travail? En tout cas, encore une fois, je suis trop indiscret, tu le dis, mais c'est-tu quelque chose au travail tu pousses quand même de dire, quand t'as des rapports avec tes supérieurs, tu dis non, j'aimerais ça aller vers ça éventuellement, je veux pas rester en test?
En fait, ça vient plus naturellement, tu sais. Quand t'es dev testeur sur une équipe, ton mandat est assez large. Tu as une cellule de base, puis tu travailles sur des tâches spécifiques, mais après ça, il y a tellement d'autres besoins de l'équipe de production que tu peux combler. Fait que des fois, tu peux, genre, l'équipe narrative, comment on aurait besoin, genre, d'un petit montage des, genre, 5 cinématiques qui sont alpha pour présenter, genre, à un directeur ou un truc là. Fait comme que, quelqu'un qui veut le faire, quelqu'un, c'est le tour de faire du montage. Comme, ah oui, okay. Moi, je vais le faire, je fais du montage. Fait que, pogne des petits trucs comme ça, puis éventuellement, le monde se rend compte, ah, ben, t'es bon là-dedans, ouais. T'en fais beaucoup. Fait que, t'en as de plus en plus, dans le fond.
Justement, bon, un petit peu plus tard, t'es passé. Bon, au début, t'as fait du test. Je pense que la dernière fois, on s'avait parlé, tu venais de finir Far Cry Primal. Mm-hmm. Fait que je pense que t'avais encore une espèce de boulot de transition que tu faisais, on pourrait dire, de la performance, puis ensuite du montage vidéo. Justement, la performance, ça, c'était comme t'étais un espèce de testeur, puis tu dois démontrer le jeu pour offrir du bon footage.
Ensuite, ouais, exactement. Mais tu sais, la transition est, tu sais, c'est une zone grise tout le temps. Là, ouais. Faire un peu de test, un peu de capture, après un peu de capture, un peu de montage, un peu de vidéo, après un peu de, tu sais.
Ok, t'as transitionné un peu là-dedans. C'est pas qu'il y a eu un poste qui est apparu sur le site d'Ubisoft.
Non, c'est ça. Ben, en fait, il y avait même pas de poste quand je suis arrivé. Il y avait personne sur l'équipe sur Far Cry 4 mm-hmm. qui faisait le poste que je fais aujourd'hui, qui est artiste de capture. Puis éventuellement, le poste est arrivé. Puis moi, j'étais déjà là. En train de faire des vidéos, ouais, du montage. Okay. C'est comme, ah ben, vu que t'es là.
Que de coïncidence. Puis bon, c'est ça, la fois qu'on s'avait rencontré, justement, pour discuter, ben bon, on s'est rencontré entre temps quand même, on va se dire la vérité. Bon, c'est ça, t'étais rendu artiste de capture sur Far Cry Primal, et bon, déjà, t'étais éditeur de vidéos, et là, de ma compréhension, sur Far Cry 5, t'as sensiblement la même position.
Le même poste, exactement, ouais.
Ok, cool, très bien. Ben, je pense que c'est ça. Rendu à ce moment-ci, je crois qu'on va être dans le vif du sujet dans pas long. Qu'est-ce que je te propose, Yann, c'est de prendre une petite pause. On va digérer un peu, puis on va enchaîner avec un autre sujet.
On va finir nos onion rings.
Ben oui, les anneaux d'oignon, ma foi. À tantôt. Donc oui, une voilà de retour, Yann, ça va toujours bien?
Ça va toujours bien.
Et comment se passe la digestion actuellement?
Ça se passe bien, mais il reste encore un onion ring, puis tu l'as pas mangé, Pat.
Ouais, il y en a deux, en fait, hein? Il y en a un qui est niché dans l'autre. Ouais, OK. C'est parce qu'ils sont faits pour s'aimer ou c'est quoi? C'est comme les gaufres.
S'ils sont ensemble, c'est qu'ils s'aiment.
OK, bon, Yann, on va révéler quelque chose au public. En tout cas, moi, dans mon cercle de personnes que je connais dans la vie, t'es probablement une personne avec les connaissances les plus encyclopédiques des Simpsons en québécois.
Ah ouais, je dois pas mal être dans, genre, dans le top.
Non, non. Wow. Qu'est-ce qu'il faut comprendre potentiellement pour notre histoire en Europe qui est moins familière que la situation québécoise? Les Simpsons, nous autres, on avait une version localisée pour le Québec qui était, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, ça reste encore vraiment un des meilleurs boulots de localisation que j'ai entendu en vie pour le marché
québécois.
Ah, pour
vrai, c'est... Ouais, vraiment, là.
Si on regarde les gens de notre âge, ça a été probablement la série, même série, je dirais, j'allais dire série de dessin animé, mais la série qui a vraiment été cherchée.
La plus écoutée, en tout cas... T'sais, quand tu croises du monde, c'est vraiment jamais écouté ça, les Simpsons. C'est comme, oh, OK, ah, on pourra pas être amis parce que genre, on part de trop loin. C'est comme un choc culturel rendu.
Il y a ça, puis ils vivaient-tu dans un bois, genre Montana?
T'sais, ils pouvaient pas ne pas avoir TQS.
Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça donnait comme incidence? C'est potentiellement, si tu dis des expressions comme assurance dentaire ou des trucs de même, clairement, tout le monde pense aux Simpsons. Donc, nos parents ont eu l'Église et le catéchisme. Nous autres, c'était les Simpsons.
J'ai hâte de voir ce que la prochaine génération va avoir.
Ça m'inquiète, Yann, ça m'inquiète.
Ça sera un autre sujet.
Oui, non, c'est ça. Controversé cette fois-ci, crois-moi. On va parler un petit peu, comme on l'a fait miroiter tantôt. Bon, initialement, tu étais dans le domaine du cinéma, tu es passé en jeu vidéo. On se cachera pas, le jeu vidéo souvent s'inspire du cinéma pour la mise en scène, la représentation visuelle des événements, tout ça. Donc, justement, je trouvais que tu étais en bonne position pour peut-être parler de cette relation-là. Je sais pas si tu es à l'aise avec la chose.
Ah, vas-y.
Je t'impose rien.
Mais en fait, je te dirais que de moins en moins, je pense que le jeu vidéo commence à développer genre ses propres codes de qu'on parle de cadrage, de mise en scène, d'action, de comment que les acteurs sont dirigés. Je pense que c'est vraiment avoir une séparation plus importante avec le cinéma qu'avant.
Non, définitivement. Peut-être pour les gens qui n'ont pas encore une fois écouté Les Jeux sont faits d'abord, encore une fois.
Allez écouter Les Jeux sont faits.
Oui, vraiment. Là, d'ailleurs, on a annoncé que ça tirait à sa fin, ça allait en pause, donc c'est le moment. Là, le catalogue est final, vous pouvez l'écouter au complet, c'est disponible. Mais bon, peut-être les besoins de nos auditeurs actuels, on va quand même parler un peu de ton boulot, c'est quoi? Bon, on parlait justement, tu fais de la capture, mm-hmm. tu fais du montage ensuite. D'abord.
En fait, je fais beaucoup de choses. Je fais,
OK, vas-y, Yann, étale.
Étale. J'espère que mon lead écoute.
Oui.
Fait que dans le fond, ce que je fais.
C'est quoi son petit nom?
On va pas en parler.
Oh boy. Oh.
Salut, David. Moi, je suis sur l'équipe marketing.
OK.
Puis je suis artiste vidéo, artiste de capture. Là. Mais dans le fond, je dis artiste vidéo parce que mon mandat va plus loin qu'artiste de capture. À l'origine, il y avait un poste d'artiste de capture qui devait être quelqu'un genre qui fournissait du B-roll pour les agences ou pour la prod. B-roll, c'est genre dans le fond, c'est comme un... T'envoies 10 minutes de matériel de jeu monté, mais qui reste quand même large pour être utilisé genre pour de la promotion, des trucs comme ça.
Donc concrètement, à tes débuts, tu jouais à Far Cry 4, Far Cry Primal, t'enregistrais tes performances en tant que joueur, ensuite tu coupais ça un peu grossièrement.
Oui, justement, t'sais, parce qu'en fait, t'sais, si tu veux un 10 minutes de gameplay, t'enregistres 3-4 heures, mm-hmm. t'enlèves tout ce qui est pas bon, ce qui est trop long, ce qui est plate, ou t'sais, tu gardes juste le meilleur. Là.
Mm-hmm.
Fait que, mais dans le fond, aujourd'hui, ce que je dis avec Artiste Vidéo, c'est que en fait, je m'occupe un peu de tout. Je fais un peu de planification quand on engage des agences externes, de voir un peu le mandat qu'ils ont à faire, si on a besoin de support de la production, si on a besoin de débloquer du temps d'un programmeur, d'un artiste pour leur envoyer directement des, mettons, une shot précise ou un asset précis. Après ça, je peux capturer pour eux encore, comme je disais, faire du B-roll. Sinon, des fois, on fait des vidéos à l'interne nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va pas en agence. Fait que le rendu là, il faut écrire le brief, faire la capture, le montage, passer en review, envoyer en post-prod, faire le montage audio. Puis, tu sais, la gestion, dans le fond, de tout ce qui est asset vidéo marketing, ça passe un peu par moi. À différents niveaux, là, dans le sens qu'il y a des assets que je vais juste comme donner mon feedback, mon input ou genre aiguiller dans la bonne direction. Puis, il y a d'autres assets qu'on va réaliser de A à Z à l'interne.
Les gens sont moins familiers dans quel contexte Ubisoft aurait besoin de bandes-annonces à l'interne.
En fait, les bandes-annonces à l'interne, c'est pas des bandes-annonces à l'interne, c'est plus des mood vidéos, des trucs comme ça. Dans le fond, c'est souvent en début de production. T'sais, en début de production, il y a un level designer qui veut présenter sa mission au directeur, puis il a besoin d'une vidéo pour démontrer la vision, mais c'est plus l'ambiance, l'atmosphère, l'émotion qu'il veut véhiculer. Pour les missions, c'est plus rare, mais souvent pour le narratif, on en a plus de besoin. Tu sais, comme exemple, dans Far Cry 5, il y a 3 régions.
Mm-hmm.
Puis dans le fond, en début de production, on a fait des vidéos pour représenter chacune des régions.
Okay.
Juste pour donner une idée à quelqu'un qui fait comme, OK, mais ça va être quoi la région de Seed ou de John? OK, je comprends où est-ce que vous voulez en venir.
Okay.
Mais souvent, ces assets-là sont faits à partir de trucs in-game, mais plus souvent à partir de vidéos, de séries ou de vidéos YouTube. Tu sais, on prend ce qu'on peut. Là. Okay. Des fois, on mixe les deux. Là.
OK. Non, ça fait du sens dans le cas de Far Cry. Bon, ça se passait au Montana. Donc, bon, c'est là des documentaires qui se passent dans ce type d'environnement-là. Ça doit être du bon matériel pour vous.
Ben exactement. En même temps, ça peut servir aussi de référence pour, je sais pas moi, un artiste qui s'occupe de l'éclairage ou quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est biome. Genre, ça ressemble à quoi? Genre, les forêts au Montana. Fait que, tu sais, il va présenter une vidéo à ses directeurs pour dire ce qu'il veut faire sur son biome, mais genre, on va monter une vidéo de 5 minutes de forêt, puis d'animaux, puis d'ambiance, puis de lumière, puis...
OK. Puis là, dans le contexte de la production, quand t'embarques un peu plus le produit, bon, le jeu commence à être en développement, la vision est figée. Comment t'agis, là? J'imagine que tu vas commencer à faire plus de matériel pour une consommation externe à Ubisoft.
Exactement, là. Pour Far Cry 5, on arrivait proche du E3, fait que là, c'était de commencer à créer tous les assets qu'on va sortir pour le E3. Quand on arrive à des mandats plus importants ou des trucs, genre, qu'on sait qu'on va sortir à l'externe, comme le E3, là, on commence à développer des vidéos puis des briefs genre pour les agences qui vont travailler pour nous pour le E3.
Okay.
C'est comme faire des essais de trailer. On va sortir genre une dizaine de trailers rapidement, genre assemblés avec ce qu'on a dans le jeu, pour essayer de voir vers où est-ce qu'on va s'en aller pour la sortie.
Donc, d'une certaine manière, c'est super intéressant. Il y a comme au début une espèce de processus pour trouver votre voie d'une perspective marketing.
Oui, oui. Mais c'est comme un peu du storyboard. C'est juste qu'au lieu de faire comme en cinéma puis de dessiner puis d'avoir un storyboard genre physique, on le fait avec ce qu'on a dans le jeu.
Ah,
juste
oui?
Que tu sais, les personnages sont roses puis gris, puis genre il n'y a pas de montagne. Puis,
OK, j'aurais cru traditionnellement, vous auriez eu quand même une approche de dire on a une bande-annonce à faire, on va faire un scénario image, mais vous autres finalement, vous passez par-dessus cette étape-là, vous dites regarde, on a déjà des modèles, on va monter un
truc. C'est quasiment aussi long dans ce temps, parce que la manière qu'on travaille dans le jeu, c'est qu'on a quand même des outils qui nous permettent d'avoir des caméras externes, d'avoir des consoles commandes dans le fond pour. Ajouter des armes, des véhicules, changer le time of day. Fait en ayant ça, c'est plus rapide d'aller dans le jeu puis d'explorer genre tout de suite rapidement ce que tu veux faire puis d'essayer. Tu veux une shot d'introduction, mais t'en as genre 50 puis après ça, OK, c'est celle-là, tu la mets dans le montage. Après ça, tu passes tout de suite, OK, j'ai besoin d'un véhicule qui arrive de gauche à droite pendant qu'il y a un personnage qui le regarde. Là, tu fais plein de tests avec différents véhicules, personnages, différents lieux. Je pense que ça permet d'explorer plus rapidement plein d'options.
Puis, ce qui est très intéressant dans votre situation aussi, bon, Far Cry 5, juste on prend ton expérience, tu vas faire ton troisième Far Cry que tu fais.
Mm-hmm.
Vous devez actuellement avoir une popée librairie de véhicules, d'armes et, tu sais, même d'objets à mettre dans l'environnement. Donc, ça doit aider beaucoup aussi.
Exactement, exactement. Oh, oui, c'est ça.
Qui dit travail, dit outils. Yann, encore une fois, les gens sont moins familiers. Ça ressemble à quoi ta palette d'outils là, au travail? Qu'est-ce qu'a l'air ton bureau actuellement?
Présentement, il est très propre. Là. J'ai eu le temps de faire le ménage un peu vu qu'on a chippé le jeu il y a 2 semaines.
Tu sous-entends, avant, c'était une soie cochon?
Il y avait beaucoup de post-it puis de notes. Puis de... En fait, nous, on travaille avec une console commande qui est genre des cheat codes qu'on peut rentrer dans le jeu avec le clavier. Là. Fait que, on peut, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire, on peut rendre le joueur invisible ou changer le time of day dans le fond, ou, changer le soleil de place, ajouter à la lune, des trucs comme ça. Des fois, on a besoin de trucs plus spécifiques. Fait qu'on peut demander l'aide de la production, un programmeur ou un directeur technique pour avoir des trucs plus précis. Exemple, mettons, on veut faire une shot parce que tu arrives en avion puis tu détruis un véhicule qui passe sur un pont, mais tu sais, d'attendre que le jeu, systémiquement, t'envoie le véhicule que t'as besoin au bon moment, c'est un peu difficile. Fait qu'on a des scripts qui roulent pour nous, qu'on peut activer avec des consoles commandes pour que quand l'avion arrive à telle distance du pont, il y a un véhicule qui se pende, puis après ça, tu peux le détruire.
Ouais, parce que j'allais dire, ça doit être longtemps, sinon, d'attendre que ça arrive.
C'est un peu nouveau, là. Il y a des shots sur Far Cry 4 puis Primal qu'on s'est repris à genre, je sais pas moi, 300-400 shots.
Oh mon Dieu, ça a l'air de quoi? C'est que t'essaies, ça merde.
Il y a toujours quelque chose qui fait que ça marche pas. Puis vu que Far Cry, c'est un jeu très systémique, sur Primal, on avait fait une vidéo de walkthrough. T'essayes de couper le moins possible. Fait que si ça fait comme, tu fais un outpost, ta première minute est vraiment belle, t'arrives à la fin, puis genre, ah oh, shit, il y a un ours qui arrive, tue tout le monde, puis tu peux pas finir l'outpost, ou il vient de tuer toi, ou... C'est sûr que ça arrive comme une fois sur 1000, mais ça t'arrive pendant que tu fais ton trailer. Puis quand ça fait 8 heures, t'es en train de capturer genre ta shot ou est-ce qu'il faut que tu tires tel gars à tel moment?
Ça doit être plaisant, ma foi. Ça doit être plaisant.
C'est la partie des charmes du métier, là. Mais c'est pas si pire. Plus ça va, plus qu'on a des outils qui nous permettent de couper le temps de capture pour pouvoir avoir plus spécifiquement ce qu'on a de besoin.
Justement, on avait une question d'un de nos auditeurs, Ant Pomme T sur Twitter. Parce que oui, on utilise des réseaux sociaux, Yann.
C'est tellement 2.0.
Ah oui, vraiment. On est en train de passer au 3.0. Je te montrais le diagramme tantôt. C'est assez incroyable. Lui, de son côté, se demandait justement, quand tu fais de la capture, est-ce que tu utilises juste, on pourrait dire, la caméra de jeu, on va dire live, ou des fois, tu as des outils pour venir en arrière voir des replays?
C'est comme en direct, dans le fond, là. Tu sais, on a accès à des outils, comme je disais, pour jouer avec les... en fait, on a accès à la console commande pour jouer avec les paramètres du jeu. Fait que, on peut faire pause, partir... La manière que ça marche, c'est que le joueur est comme ton entité... première. Mm-hmm. Fait que si tu fais pause, nous, on peut quand même se promener avec le joueur, okay, pour faire des trucs.
Mais il n'y a pas un concept de dire telle chaîne d'événements, il y a 30 secondes, on peut revenir en arrière pour la filmer différemment. Non.
On travaille en direct, mais tu sais, on est tellement rendu habitué de travailler sur Far Cry, ça va faire mon troisième, que je sais un peu comment que les systèmes marchent, fait qu'on réussit à travailler autour, puis tu sais, on sait que si on met genre un NPC à tel endroit, puis on arrive en véhicule, il risque de faire tel mouvement, fait qu'on peut...
OK, donc d'une certaine manière, t'es en train de dire tu peux anticiper Far Cry maintenant.
Un peu.
Ça me fait peur, Yann, ça me fait peur.
Puis tu sais, on peut faire pause au jeu quand qu'on veut, puis aller placer nos caméras, puis après ça faire notre plan, fait que...
Mm. Pour venir avec le domaine du cinéma, d'où est-ce que tu viens initialement, lorsque tu as commencé à travailler en jeu vidéo, bon, là, juste au niveau des caméras, on a beaucoup plus de caméras en première personne, des fois, tu as de la troisième personne, particulièrement les trucs narratifs. Est-ce qu'il y a des codes du cinéma, des conventions du cinéma, il a fallu que tu abandonnes ou que tu commences à moins utiliser parce que ça cadrait moins bien que le jeu vidéo?
Oui, mais en fait, au niveau capture, ça ressemble beaucoup au cinéma. Là, ça reste c'est de la composition, oui, d'image. Là, fait qu'on s'entend que les codes ne changent pas beaucoup. Ce que ça change beaucoup, c'est au montage. Parce qu'en jeu vidéo, tu n'es jamais pris avec le matériel que tu as.
Mm-hmm.
Fait que si, mettons, un plan marche pas, ben, tu peux juste aller le refaire presque pareil en changeant comme un élément, puis là, ça fait que le plan va fonctionner.
Okay.
Fait que c'est vraiment une autre mentalité. En cinéma, tu vas en tournage, puis après ça, quand tu vas te rendre en montage, tu as le matériel que tu as tourné, tu sais.
Dans un sens, c'est un peu moche à dire, mais c'est une malédiction, parce que tu peux tout en revenir.
Tout refaire jusqu'à la fin. Là.
OK.
Puis tu sais, ce qui est drôle, c'est que, mettons, tu fais une shot qui ne fonctionne pas, mais tu peux la faire fonctionner en faisant un raccord de mouvement ou le véhicule, ou tu sais comment, ce shot-là marche pas parce que... Je sais pas, le personnage court pas dans la bonne direction, mais tu peux la refaire, puis tu le fais courir de l'autre bord. Tu es comme, OK, j'ai besoin du même mouvement de caméra de ce shot-là, ce shot-là. Fait que t'en changes une, t'as refait exactement pareil en changeant le mouvement de caméra. Tous les éléments, genre, sont interchangeables.
Mm-hmm.
Fait que c'est vraiment bizarre, parce que aller jusqu'à la fin, tu pourrais refaire tout le trailer au complet, toute la vidéo au complet. Là.
Non, c'est bien parce que je pense que tu peux atteindre un niveau de perfection que tu peux pas en cinéma traditionnel, tandis que, tu as fait du montage traditionnel, je sais même pas si tu en as même fait en film, mais tu sais, il y avait un côté normalement des fois de dire, regarde, c'est ça le meilleur matériel que j'ai, je vais essayer de faire le meilleur boulot possible avec ça, puis tu sais, il y a un côté, regarde, c'est ça, puis c'est tout.
Non, en jeu vidéo, tu n'as pas ça, mais en même temps, c'est un peu une malédiction, comme tu disais tantôt, parce que tu pourrais ne jamais arrêter, tu sais. Puis rendu là, sais, nous, on fait beaucoup de trailer gameplay, mais tu sais, t'as la ligne entre trailer gameplay et trailer cinématique.
Ouais.
Si tu veux faire une cinématique, tu vas contrôler 100% du trailer. Mais si tu fais un trailer gameplay, ben, faut que tu acceptes que ça sera pas parfait.
Mm-hmm. Non, définitivement. Ça, d'ailleurs, c'est intéressant. Parce que je regardais les différents types de bande-annonces que vous avez eu pour le produit. Et,
regardez mon travail.
Oui. D'abord, félicitations. Oui. C'est fantastique. Sinon, c'est ça qui est très intéressant. Si on va voir ton profil professionnel sur LinkedIn.
Faudrait que je le mette à jour. Il me semble que ça fait longtemps.
Non, il y a quand même beaucoup de bandes-annonces. Quand même. Il y en a eu pas mal à écouter. Là. Je dis ça de même. Mais qu'est-ce qui est super intéressant de ton côté? Il y a quand même une polyvalence. Tu as fait notamment des vignettes avec des personnages. La famille ici, de grosso modo, tu as l'air de bien la connaître. C'est fantastique. On parle de vignettes. Souvent, c'est quoi? C'est une minute à peu près. Ensuite, tu as quand même eu aussi. On voit ça de plus en plus. Puis on va en parler tantôt aussi. C'est un autre thème. Tu as eu des séquences même de jouabilité étendue. Tout ça, tu as à négocier avec ça. Toi, de ton côté, est-ce que tu penses le produit différemment, dépendant du style de produit final à la fin, ou tu procèdes quand même tout le temps de la même manière?
C'est quasiment rendu naturel. On dirait que, genre, j'y pense pas trop. Là,
oui.
J'embarque dans le jeu, puis je sais où m'en aller, puis quoi faire. C'est comme plus... en même temps, quand ça fait... ça fait plus que 3 ans. Ça fait 5 ans
oui.
que je joue dans le même univers, si on
c'est
veut. Là, avec
hein,
les mêmes codes, les mêmes... sensiblement le même gameplay, fait que tu sais, puis c'est juste comme c'est naturel là.
Ok. Fait que quelqu'un arrive dire ok tel personnage on veut faire une vidéo pour la mettre en valeur, ben tu sais comment
tu sais déjà genre ok lui il y a telle cinématique, je peux aller dans l'éditeur chercher ça, dans l'engin je peux faire telle affaire, ça je peux pas le faire, j'ai besoin d'aide. Je sais les limites sont où dans le fond, les limites du jeu puis de ce qu'on peut faire en live là.
Très bien. Sinon, notre affaire, je trouvais intéressant. Ça va peut-être sonner prétentieux, mais on sait ça quand même, Yann. Souvent, quand je regardais ce que tu avais fait côté cinéma avant, on l'avait mentionné tantôt, il y avait beaucoup de films de guerre. On va le dire, tu as gagné des prix dans le domaine du documentaire aussi.
Oui, aussi.
D'ailleurs, félicitations encore une fois.
C'est longtemps, par contre, mais oui, merci.
Notamment, c'est les camions Thibault que tu avais fait.
Oui.
Pourrais-tu parler de ça un peu? Parce qu'il faut révéler ce que les gens en jeu font aussi à l'extérieur du jeu.
On va rejoindre nos auditeurs de Pierreville.
On les salue encore.
On les salue encore. Oui, en fait, à l'université, j'avais pris à Concordia, après la première année, tu peux choisir une branche qui est expérimentale, fiction, documentaire.
Mm-hmm.
Moi, j'avais pris la branche documentaire, puis j'ai vraiment trippé. C'est vraiment un médium genre cinématographique que j'adore. Là. Puis j'avais fait Les Camions Thibault, qui est dans le fond un documentaire sur une usine qui fabrique des camions incendies dans le village de Pierreville.
OK.
Tout revient à Pierreville.
C'était fantastique. Puis justement, quel était ton angle d'attaque dans ce cas-là, au-delà des camions et Pierreville?
En fait, c'était très cinéma direct. Là. Dans le fond, c'est que tu arrives avec la caméra, puis tu essaies de pas t'imposer. Tu laisses juste comme les événements se dérouler devant toi, puis tu captures ce qui arrive.
Okay.
Ce qui est dans le fond pas très loin de ce que je fais en jeu vidéo, parce que...
C'est un peu ça, le punk. Oui, voilà. Non, mais c'est ça, justement, ta base en documentaire. Est-ce que ça influence ta manière que tu représentes le jeu vidéo? Parce que le jeu vidéo, pour moi, bon, c'est de l'action qui se déroule. Comme on l'a sous-entendu tantôt, la caméra, c'est en direct. Tu peux pas revenir en arrière. Est-ce que ton œil de gars qui a fait du documentaire a quand même, comment je pourrais dire, une influence intéressante sur ton travail en jeu vidéo?
Moi, je pense que oui, parce que c'est une approche qui est beaucoup moins rigide.
Mm-hmm.
Tu sais, quand tu fais du documentaire... En tout cas, moi, de la manière que je travaillais, y a pas, j'ai pas de préconception, j'ai pas de storyboard de fait. Je sais l'idée générale vers quoi je veux m'en aller. Puis une fois sur place, ben, tu fais comme, OK, genre, OK, ça va arriver, ça arrive, fait que je vais le filmer. Puis là, avec telle autre scène que j'ai filmée tantôt, je peux faire un montage, je peux faire. Tu sais, tu travailles avec ce que t'as.
C'est comme d'une matière, puis après ça, c'est, pardonne-moi l'anglicisme, mais t'essaies de voir les liens ou les patterns qui ont certains trucs.
C'est comme si tu travailles au fur et à mesure que les choses arrivent.
Mm-hmm.
C'est comme plus sous pression, peut-être,
ouais.
peut-être pas sous pression, mais genre comme. Improvisation, ouais, c'est peut-être un peu plus d'improvisation. Mais en jeu vidéo, c'est quasiment juste ça. Surtout si tu vas dans les trucs qui sont plus walkthrough first person, là, faut que tu improvises avec ce qui va arriver genre pendant que tu joues.
Ce qui est très intéressant, parce qu'on en parlait tantôt, dans ta matière brute, tu as un contrôle parfait dessus, tu peux revenir tout le temps, mais en même temps, c'est intéressant, ce que tu es en train de dire, c'est que ta perspective quasiment de création de produits ou de montage, c'est... OK, ça, c'est arrivé. Il y a peut-être quelque chose de bon à faire avec ça. On essaie de tracer des liens, bâtir quelque chose de cohésif et on le sort.
Ouais.
Donc, non, il y a quand même un rapport intéressant. Mais tu sais, particulièrement, le dernier jeu que vous avez aussi, bon, tu sais, ça se passe en Amérique, il y a des trucs sur le terrain dont je me disais, non, c'est approprié quasiment d'avoir un regard de documentaire là-dessus.
Ouais, ça, c'est une autre chose. En fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur Far Cry 5, je voulais vraiment que les assets que je faisais, puis... ceux qu'on allait sortir, mais j'essayais de pousser l'idée d'avoir une approche très documentaire. Tu sais, pas des caméras impossibles, puis des trucs.
Pas pour tirer des roches, mais une autre production d'Ubisoft Montréal. Mais tu sais, on regarde Assassin, normalement, c'est beaucoup plus des images polies, des bonnes compositions et tout. Oui.
Les caméras dans Assassin, c'est grandiose. Ça montre les paysages, ça montre genre le monde. Nous, on a voulu une approche, comme moi, c'est ce que j'essayais de faire, mais plus humaine, plus réaliste, plus... Genre...
Sur le terrain.
Oui, exactement, ouais. Exactement.
Okay. Non, c'est super intéressant. Je l'ai senti, Yann, je l'ai senti.
C'est drôle, pour nous, ce que tu disais avant, tu sais, autant que quand tu fais une vidéo puis tu captures, tu prends ce que le jeu te donne, mais autant qu'après ça, tu peux tout le temps tout refaire. Fait que la ligne est mince, genre, c'est hyper rigide parce que tu peux genre changer jusqu'à la couleur de la fleur dans le fond de la shot si tu veux la refaire, que... Tu joues avec le systémique, puis ce que tu peux genre capturer en même temps. C'est comme une drôle de balance, je pense, entre les deux. Là.
Non, c'est super intéressant parce qu'on va parler d'affaires encore à l'extérieur du jeu vidéo. Les gens vont nous haïr. Mais actuellement, je m'intéresse beaucoup au concept de photo de rue. Puis il y a vraiment ce côté-là très spontané aussi, des fois, de dire OK, il y a un truc qui se passe devant toi, tu attends que la personne soit sur le tiers, tu prends la photo, ainsi de suite. La manière dont tu en parles actuellement, ça me rappelle un peu ça. C'est intéressant.
Ce qui est un peu touché, c'est que. T'as la spontanéité d'un premier edit, d'une première capture. Puis ça, t'es comme, OK, c'est vraiment cool. On veut ce shot-là dans le trailer du E3 qui sort dans un an.
Mm-hmm.
Puis après ça, genre un an plus tard, c'est comme de refaire ce que t'as improvisé une première fois.
Ouais, recréer du spontané.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Fait que c'est là que c'est un peu plus touché parce que ça peut fonctionner, mais c'est pas la même veille, c'est pas la même magie comme la première fois. C'est...
Mais c'est intéressant parce que, rendu là, je me demande, c'est pas juste ton problème à toi, parce que toi, tu le sens de même, tu sais que c'est spontané.
Ouais,
mais
en fait, personne le sait en dehors de ça, là.
OK, fait que t'es en train de nous dire que tu nous as caché des trucs. Hein.
Ah, plein de choses.
Voilà.
Je me souviens plus, ça fait longtemps, là, ce qu'on avait fait d'une shot sur Primal, parce que le joueur arrivait dans une clairière, il avait un mammouth, il le voyait, il reculait un peu, il lançait la lance, puis là, quand la lance touchait le mammouth, ça coupait.
Mm-hmm.
Puis ce shot-là, on l'avait fait... 50, 70 fois. Puis tu sais, il y a tout le temps un petit timing que tu veux refaire. Puis c'est comme, attends, il était mal placé. L'animation était pas belle, on va le refaire. Dans les dernières qu'on a faites, on en refait une pour le fun. On fait la shot, puis là, en même temps, il y a genre un troupeau de cerfs qui traversent avant que le mammouth vienne. Il y a une panthère qui court après. Le mammouth, genre, court par-dessus. Puis c'est comme genre, what?
Okay, un truc impossible.
C'est genre impossible à prévoir. Puis même, tu sais, on n'avait pas pensé à le mettre en scène. C'est juste comme les systèmes qui ont fait que tout est arrivé en même temps.
Aïe, aïe, c'est super.
Puis ça, t'es comme genre, oh, wow, c'est cool. Puis là, t'amènes dans une vidéo. Mais après ça, t'es comme, on va falloir le refaire sûrement plus tard. Mais genre.
Là, tu dis, ah, merde, faut recréer ce moment-là. Qu'est-ce que ça va être compliqué?
C'est ça. Puis même une fois recréé, t'es comme, OK, mais ça. C'est peut-être un feeling personnel, mais tu commences à l'air stagé, tu sais.
De
moins le sentiment d'émerveillement.
J'avoue, c'est super ironique quand ce truc-là est vraiment né d'un truc, c'est vraiment aléatoire, spontané. Puis...
Tu sais, dans Far Cry, les systèmes fonctionnent tout le temps entre eux. Hein? Donc, tu le vois avec les vidéos sur YouTube, t'as un gars qui pêche, un avion qui fonce un ours, qui revole, qui fait exploser une autre affaire. Là.
Business à ce jour. Sinon, l'autre affaire, pour encore venir à ce satané cinéma, Yann, j'imagine que tu regardes quand même d'autres choses qui se font ailleurs. Est-ce que de votre côté, le marketing en cinéma vous influence? Comme, bon, tu sais, il y a des tendances dans les bandes annonces actuellement de mettre des chansons populaires, mais lentes, pour que ça ait l'air vraiment profond, et ainsi de suite. Est-ce que vous gardez ces tendances-là, ces mouvements-là pour alimenter votre travail? Ou encore une fois, comme tu as sous-entendu au début, le jeu vidéo est rendu à un stade où il peut avoir ses codes indépendants?
Pour le jeu vidéo en tant que tel, peut-être qu'il y a une indépendance entre les... Oui. Ben, pas une indépendance, mais genre une coupure plus claire aujourd'hui qu'avant entre le cinéma et le jeu vidéo. Par contre, en trailer, on est vraiment, vraiment proche de ce qui se fait en cinéma ou en télé ou peu importe. Oui. Parce que le principe, c'est toujours le même. Là, c'est genre de surprendre le téléspectateur. Puis tu sais, t'as une minute et demie, deux minutes gros max. Fait que tu sais, veux pas, c'est toujours construit en trois temps, genre. C'est un peu classique. La situation initiale, problème, élément déclencheur, punch, puis tu peux peut-être de quoi... post-logo.
OK, non, c'est ça. Fait que c'est encore une fois les mêmes codes, mais bon, c'est présent au cinéma depuis Vitam Eternam.
En même temps, vu qu'un trailer, c'est vraiment rapide, on dirait que c'est comme plus facile de rapprocher les codes. T'sais, dans un jeu vidéo, t'as toute l'interactivité que t'as pas en cinéma, mais pour un trailer, t'as pas cet aspect-là. Là.
Et justement, parlons-en de jeux vidéo aussi. L'autre truc élevé depuis notre dernière entrevue à propos de Far Cry Primal, c'est Twitch. Bon, on se le cachera pas, côté promotion, côté représentation du jeu vidéo, c'est rendu un joueur vraiment important. Même que je mettrais au même niveau que YouTube, sinon au-dessus maintenant. Est-ce que de votre côté, ça vous influence la manière que l'action est représentée dans Twitch maintenant? T'sais, on parle de longues sessions de jeu, on parle de commenter l'action, et ainsi de suite.
Mais pas vraiment, parce que je pense pas que ça rejoint beaucoup le côté trailer des jeux vidéo. T'sais, ça n'a pas le même mandat, c'est pas pour les mêmes beats marketing. Mais je te dirais que quand même, c'est tenu en compte, dans le sens que T'sais, on peut sortir un trailer avec 10-15 millions de vues, mais t'sais, du côté Twitch, ils peuvent aller chercher autant, sinon plus de vues. Fait que t'sais, d'avoir du monde qui Twitch le jeu, je dirais que c'est un autre aspect du marketing. Là.
Ça, j'allais dire, peut-être dans le schéma du plan marketing, tout ça, c'est rendu très important, mais en tant que gars qui fait des bandes-annonces...
Trailer, vidéo, capture... T'sais, en fait, nous, on travaille pas avec ces gars-là.
Oh, oui.
Parce que eux, souvent, même les YouTubers, ils ont le jeu puis ils vont faire leur propre montage, leur propre edit. T'sais, ils prennent pas de B-roll ou de ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment du... C'est vraiment eux qui font tout leur truc. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés et qu'on a travaillé avec. Là.
Ouais, non, c'est ça. Puis c'est bien de votre côté qu'il y a une certaine retenue de dire on va pas s'improviser YouTuber à
non,
même Ubisoft.
Là, en même temps, c'est cool de leur laisser la liberté. T'sais, eux font leur truc, puis that's it. Là.
Sinon, bon, là, ça va faire trois jeux dont tu fais les bandes-annonces, tu as fait un petit peu de cinéma avant, des courts-métrages, tout ça. Quel serait ton plus grand apprentissage en tant que gars qui raconte visuellement? C'est peut-être prétentieux comme question.
C'est très profond comme question, en fait. Oui. Le sens de la vie.
Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, Yann?
Parle-moi de toi.
Oui.
Je te dirais que le plus gros de l'apprentissage vient du fait d'apprendre à travailler dans une grosse production.
OK.
T'sais, tout ce qui était cinéma, documentaire avant, j'ai pas travaillé sur des gros films. Là, fait que mm-hmm. C'était comme des petites équipes de 20-30 personnes. T'sais, là, il faut travailler avec du 300-400 personnes. Puis en même temps, on travaille avec du monde de la production, on travaille avec du monde à l'externe, on travaille avec nos partenaires de marketing, on travaille avec du monde de l'Europe, avec des YouTubers, avec... même YouTube, ces trucs-là. Fait que c'est genre toute la gestion de projets, d'équipes, de personnes, de comment tu t'envoies un brief, comment faire bien passer tes idées pour éviter genre le back and forth entre l'agence puis la prod parce qu'ils comprennent pas ce que la prod voulait ou l'agence comprend pas ce que... Tu sais, il y a comme un...
Je pense aussi la flexibilité dans ton travail, souvent, ce qui me saute aux yeux quand quelqu'un tombe dans une grosse organisation de la première fois, c'est justement gérer toutes ces influences-là, tous ces retours-là.
En fait, c'est gérer toute la communication genre par rapport à ça. Tu sais, même nous, quand on fait un trailer, moi, c'est de genre réussir à bien communiquer mes idées à genre plein de personnes qui ont pas les mêmes... objectif, tu sais, quand tu communiques ton idée pour un trailer à quelqu'un qui s'occupe genre de la modélisation 3D ou quelqu'un qui s'occupe du level art, mais c'est pas la même chose, tu sais.
Non, définitivement.
Ils voient pas la même chose quand tu leur présentes un plan, eux, là.
Non, mais définitivement, c'est un truc que tu développes avec l'expérience. J'imagine, au début, tu savais pas trop comment t'y prendre, puis bon, tranquillement, pas vite, tu fais OK, oui, eux autres, ces gens-là, leurs contraintes, c'est ça, leur force, c'est ça, donc ouais, je vais parler de même.
Et puis apprendre le bon feedback au bon moment des bonnes personnes, tu sais. Souvent, si tu présentes un truc à quelqu'un qui s'occupe, mettons, de la végétation, mais il va. Ton cadrage puis l'action, genre, il le verra pas parce que oui. Il est spécialisé dans un truc, fait qu'il voit ce truc-là. Là.
Non, définitivement. Sinon, bon, c'est bien de parler de toi, Yann, mais des fois, il faut s'ouvrir au monde, c'est important.
Moi. Tout ce qui me revient à moi.
Sinon, j'imagine, tu regardes un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le domaine du jeu vidéo. Y a-tu justement des bandes-annonces, des campagnes marketing que tu as vraiment trouvé intéressantes ou qui t'inspirent?
Faut que je parle de la concurrence, là.
Ouais, on était dans le territoire glissant, là, tu m'as dit.
Non, ça va. Côté trailer, on a plus de liberté, tu sais.
Oh, oui.
C'est pas tant de la concurrence, c'est des confrères.
Oui.
Des confrères monteurs.
Quel beau regard.
Non, récemment, ben un qui m'a vraiment marqué, que j'ai aimé, c'est le reveal trailer de Battlefield 1.
OK.
Avec le remake, justement. Un remake de Seven Nation Army de White Stripe, là.
Mm-hmm.
C'est genre, ce trailer-là était juste magnifique, là. Il y avait tellement, genre, de puissance en arrière. Je pense que la toune y est pour beaucoup, hein,
oui.
Mais... C'est genre dans mes ceux qui m'ont le plus marqué récemment. Là. Mais toute leur campagne, Battlefield 1, était vraiment tête. Là. Ce qu'ils ont sorti comme asset, puis comme...
Ce qui était quand même osé d'un sens, parce que là, tu reviens aussi avec un conflit, la Première Guerre mondiale, on s'entend que c'est beaucoup moins dynamique que le Vietnam, Deuxième Guerre mondiale.
En même temps, c'est politique un peu quand même. Ils pouvaient pas aller n'importe où. Là. Fait que, moi, je trouve qu'ils ont vraiment fait une bonne job avec ça.
Exactement. Ben, allons-y toujours dans les questions profondes. Yann, à ton avis, qu'est-ce qui fait une bonne bande-annonce de jeux vidéo?
Oh! Ça se décortique en beaucoup de points.
J'ai du temps, man.
On va remplir ton disque dur. High level, là, ce qui est vraiment important, c'est juste de marquer le spectateur.
OK.
Tu sais, faut que tu le surprennes, parce que c'est là qu'il va faire comme « Oh shit, OK, je m'attendais pas à ça, j'en sais quoi. » Puis là, tu sais, faut que tu piques sa curiosité. Il y a aussi, il y a plein de trucs. Faut que tu fasses passer tous tes messages. Faut que tu fasses passer toutes tes features. T'es comme ta checklist de...
Oh, oui.
T'sais, comme nous, mettons, je vais donner un exemple, là, mais sur Far Cry 5, quand on a sorti pour l'E3, ben, il fallait présenter les nouveaux véhicules, les nouvelles armes, il y a comme tous les trucs à...
Ben, tu entends une évolution dans la franchise au lieu que les gens disent « Ah, OK, c'est un autre Far Cry, mais là, c'est aux États-Unis. »
Exactement, tu sais. Mais au-delà de ça, fondamentalement, il faut que le trailer soit juste captivant.
Mm-hmm.
T'as une minute et demie pour convaincre quelqu'un que ton jeu va être genre le meilleur jeu de 2018. Là.
Mais j'aimerais rajouter que dans ton cas, ça n'est pas nécessairement évident parce que là, bon, t'en es à ton troisième Far Cry, donc d'une certaine manière, il faut que t'épouses aussi les codes de Far Cry, mais que tu surprennes. Ça doit pas être particulièrement facile.
En fait, c'est plus le setting qui est important dans ce cas-là. Okay. Tu sais, Far Cry, ça reste la base. Ce qu'on voulait pousser en faisant les trailers, c'est de montrer que c'est au Montana, aux États-Unis, okay. que c'est nouveau, que tout le setup apportait de quoi de plus à la franchise.
Yann, on est des hommes qui te gèrent. T'as eu des problèmes ici et là.
Ça te gère beaucoup.
Oui, c'est ça. Je te propose de prendre une pause, puis ensuite, on va parler un peu plus spécifiquement de Far Cry 5. Donc, c'est ça, on est rendu au dernier droit, Yann. On va parler des vraies affaires, on va parler de Far Cry 5. D'abord, comment tu te sens par rapport au fait que tu as accouché d'un troisième Far Cry?
Très satisfait.
Oui?
Oui, vraiment. Là. J'ai comme vraiment joué au jeu une fois qu'il était sorti. Parce que j'avais pas joué tant que ça pendant la production du jeu. Là, puis c'est vraiment un bon jeu.
OK, très bien. Tu fais très bien ton boulot. Je suis sûr que Ubisoft va être content de toi.
Oui, mais vraiment cool. Puis à date, la réception est le fun. De ce qu'on voit un peu sur Internet, les fans ont l'air de l'aimer. Puis ça
non,
vaut bien.
Non, c'est ça. C'est des bonnes nouvelles. C'est dans la continuité.
Est-ce que t'as joué, toi, Pat?
Pas encore.
Ah!
Tu sais ma politique à propos des jeux violents. Non, non. C'est juste à pas donner. J'ai malheureusement acheté une Switch. J'ai pas encore fini Mario, mais c'est sur ma liste ensuite, Yann.
Il sera pas disponible sur Switch, je pense.
Non, d'ailleurs, c'est une question que j'avais pour toi. Est-ce que ça sort pour la Switch?
Je pense pas.
Ah, désolé. C'est la question obligatoire qu'on a assez souvent quand on reçoit des développeurs. Quand est-ce que tu as embarqué sur ce projet-là? Est-ce que toi, déjà en pré-production, tu es là justement pour tester
des
concepts?
Moi, je suis vraiment rentré tôt. Tout de suite après Primal, là, je suis rentré trop sur Far Cry 5 en pré-production. T'sais, comme je te disais tantôt, ma job en début de projet, c'était de produire des vidéos d'ambiance puis de pour essayer d'aiguiller un peu vers quoi que le jeu s'en allait, là, comme style. Puis...
Eh bon, sinon, ça cachera pas souvent, bon, qu'est-ce qui différencie Far Cry, c'est évidemment l'univers, où est-ce que ça se passe, l'histoire, le narratif. On avait une question de Daniel Carosella sur Twitter. Quelles ont été, selon toi, les sources d'inspiration pour l'univers de Far Cry 5?
En fait, on s'est beaucoup inspiré du Montana, là.
Oui, vraiment.
Cool, là. Tu sais, même moi, dans les vidéos, comme je disais, de mood, pis tout ça que je faisais, là, on allait chercher des images de genre de l'agence de touristes du Montana, là.
Okay, littéralement, là.
Puis, tu sais, pour tout ce qui est culte, là, c'est les gros cultes américains là, qu'on entendait parler. Là. Je me souviens pas des noms, là, mais genre l'Ordre du Temple Solaire. Tu l'allais vraiment dans le plus crazy.
OK, non, j'imagine, encore une fois, quand tu arrives dans un setting de même, c'est tout simplement tu vas chercher les icônes au temps du Montana, ben, que tu sais, ces mouvements-là.
Pour nous, c'est important de bien représenter le Montana, là, vu que ça se passe au Montana, puis que le monde... Ouais. Qui viennent de là, parce que oh shit, ça ressemble à chez nous. Là.
C'est pas le meilleur parallèle, mais moi, c'est un truc qui m'avait d'ailleurs marqué. Genre, je sais pas si t'avais été en San Francisco, mais exemple, si tu regardes Watch Dogs 2, avait bien réalisé, on prédit une espèce de caricature de San Francisco. Ouais. Le feeling était là, les points d'importance étaient là, la relation entre eux était là. Donc, je crois que définitivement, c'est.
Je pense que ça aide à vendre la fantaisie quand c'est vraiment réaliste comme setup. Là.
Non, non, mais c'est pareil pour... Je sais pas si t'avais essayé les jeux de la série Yakuza. Ça réussit très bien le côté japonais. Souvent, je joue à ces jeux-là, puis j'ai comme des remontées d'heure au Japon, c'était de même, les rues n'étaient pas larges, ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est très important souvent de s'inspirer du milieu. Puis bon, quasiment encore une fois, avoir une approche documentaire de la chose.
Exactement. Far Cry a une approche documentaire.
Voilà. On le ramène. Donc, toi, de ton côté aussi, la dernière fois, on avait discuté, bon, comme on avait mentionné, tu avais fini Far Cry Primal. Et bon, tu es embarqué sur Far Cry 5. Personnellement, avais-tu des objectifs, des cibles que tu voulais atteindre justement avec ce nouveau projet-là, cette nouvelle série-là?
Bon, en fait, c'est drôle parce qu'on va revenir. On revient tout le temps au même sujet. Là, oui. On va revenir au documentaire. Là. Dans le fond, moi, quand j'ai tombé sur Far Cry 5, je me suis vraiment dit, OK, je veux que ça. Là, il y a une approche documentaire. Fait que, tu sais, j'ai été chercher plein de documentaires sur, genre, le sud des États-Unis. Ben, en fait, plus le sud des États-Unis parce que c'était comme un sujet plus proéminent, là, mais genre, la campagne, tout ce qui était rural, les ranchs, ces trucs-là. Puis c'est ce qui m'a vraiment inspiré, genre, pour tout ce qui est le travail, là, genre, caméra, cadrage, comment mettre les personnages en scène.
Le fait aussi que les autres jeux Far Cry, souvent, ça se passait dans des environnements plus exotiques. Pour toi, est-ce que ça mettait une certaine pression que cette fois-ci, ça se passe en Amérique et potentiellement dans le monde où est-ce que certains de tes joueurs vivent?
En fait, pas tant que ça. Sûrement parce qu'on est, t'sais, on est Canadien. Fait que t'sais, la culture américaine n'est pas tellement loin de...
Non, c'est pas un truc lointain pour nous ou exotique.
Campagne du Montana ou Pierreville, ça se ressemble un peu. Là.
Ah oui. Non, mais c'est correct.
C'est pas très loin. Je veux dire, c'est des fermes, c'est des petites villes, c'est des villages. Je veux dire, on a vu ça partout au Québec aussi. Là.
OK. Est-ce qu'il y avait des clins d'œil à Pierreville dans Far Cry 5?
Non, j'aurais aimé ça en mettre, par contre.
Chez Gill ou quoi?
J'ai pas réussi à mettre un petit easter egg de... dans une de mes vidéos. Par contre, j'ai réussi à mettre la date de fête de ma copine dans une des vidéos cachée quelque part.
D'ailleurs, chers auditeurs, trouver la date de fête, ça va être un peu malaisant pour Yann et sa copine, mais bon, ça peut valoir la peine. Et d'ailleurs, ça m'amène à une autre question d'un auditeur. On parle de Chaton-Pé et Elohim sur Twitter. C'est comment qu'on marche la mince ligne entre le sérieux et l'over the top dans le contexte du marketing de Far Cry 5?
En fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on divise nos assets par thématique.
Okay.
Fait qu'on va faire un asset beaucoup plus gameplay, ou est-ce que là, on va y aller avec l'anecdote factory, puis tout ce qui est genre incroyable avec un avion qui s'écrase sur un ours. Puis on va avoir des assets beaucoup plus réalistes, comme justement les vignettes avec les seeds. Mais tu sais, ça, c'était très cinématique, c'est très réaliste. On voyait pas l'anecdote factory, il y avait pas de gameplay. Fait que dans le fond, on divise par thématique ce qu'on veut faire. Fait qu'ils se croisent jamais, dans le fond.
OK, donc c'est ça. Donc, si au niveau des bandes-annonces, il y en a des fois, c'est sérieux, c'est narratif. Il y en a des fois, c'est systémique, un peu débile, puis on sépare ça. Mais effectivement, exactement, c'est une juxtaposition à même la même bande-annonce. Ça pourrait être
bien. T'sais, des fois, on peut aussi mélanger les deux, mais ça va rester tout le temps, genre, je dirais plus subtil.
Mm-hmm.
C'est qu'on va pas genre vraiment mettre genre les trucs les plus fous avec les cinématiques les plus genre sérieuses puis dark.
Ça risque de briser un peu ton message.
Exactement.
Donc, c'est ça, un peu, une fois que votre voix est un peu dirigée, j'avais une idée de la voix. Bon, vous avez beaucoup de bandes-annonces à faire. Qu'est-ce qui dit qu'on pourrait dire le plan de match, les priorités au niveau des bandes-annonces? Parce que comme on a mentionné, des fois, tu as des vignettes avec des personnages, des fois, tu as des bandes-annonces un petit peu plus longues de jouabilité. Quelle est la logique derrière le plan?
Bon, en fait, nous, on a notre roadmap, dans le fond, de notre équipe marketing qui nous disent après où est-ce qu'ils veulent aller.
Okay.
Genre, de l'annonce jusqu'à temps qu'on sorte le jeu. Puis nous, dans le fond, on y va là-dedans. Mais tu sais, on s'entend que la plupart des jeux respectent plus ou moins la même pattern. Il y a toujours le trailer d'annonce. Éventuellement, dans le process, t'as genre un trailer qui présente les personnages, t'en as un qui présente le gameplay, t'en as un qui va être genre le 101 trailer qui va présenter toutes les nouvelles features. On a comme des catégories de trailers, puis selon ce qu'ils veulent faire, l'équipe marketing, ils prennent ceux qu'ils veulent, puis disent oh, ben, on va faire lui.
À ta connaissance, surtout avec les réseaux sociaux puis bon, les plateformes comme Twitch, YouTube maintenant, est-ce qu'il y a aussi une espèce d'action-réaction par rapport à comment que les gens réagissent aux bandes-annonces?
Ah, pas tellement.
Non?
Parce que nous, on sort souvent les bandes-annonces en amont du contenu. Fait que, tu sais, la bande-annonce, c'est comme la première pièce de discussion pour un nouveau feature ou un nouveau personnage. Ou un... Fait que, tu sais, ben, après ça, c'est plus nous. En tout cas, c'est pas moi qui...
Il dit « Ah, OK, ça, ça n'a pas marché », puis on a juste fait ça. Okay,
en même temps, je vais voir quand même ce que le monde se dit. Si le monde dise, si le monde comprenne ce que je voulais faire, ce que je voulais dire, les messages...
Non, c'est ça. Dans le fond, ça informe un peu ton approche.
Ouais.
Si t'as poussé telle notion, finalement, tu te rends compte que ça n'a pas vraiment rejoint les gens. Peut-être la fois d'après, tu vas t'essayer
de... Exactement. Mais ça, c'est plus d'un point de vue personnel. Si je vois que j'ai voulu créer de l'attention à un moment, puis que genre personne n'en fait mention, tout le monde dit c'est vraiment drôle, puis dans le fond, je voulais faire de quoi de dramatique. Oh. Je suis comme, peut-être pas à bonne place.
Peut-être la prochaine fois, je vais me prendre autrement. On va revenir un peu plus sur le retour sur ton travail dans Far Cry 5. De ton côté, encore une fois, personnellement, quelle est la bande-annonce dont tu es le plus fier et pourquoi?
Oh, bonne question, hein?
T'sais, c'est comme un peu choisir parmi ses enfants.
Oui, c'est ça.
Ça peut être déchirant.
Il y en a que j'aime moins. Est-ce qu'elle j'aime le plus? C'est dur de pas dire celle du E3, parce que c'est quand même celle qu'on a mis le plus d'efforts,
oh,
de travail,
oui,
puis ce qui était la plus attendue. Puis tu sais, je veux pas, c'est le premier vidéo qui sort après, mettons, un an et demi de production, 2 ans de production. Fait que je pense que je dirais celui du E3 pour ça, pour le travail qui est en arrière, là.
Puis après ça, à quel point ça marque les gens, ou tu sais, ça marque un momentum important.
C'est toujours celle qui a le plus de vues, que le monde y commande plus, qui a le plus de réactions, qui a le plus de feedback. Ouais, je dirais que c'est celui du E3.
Non, ça, puis particulièrement à ton échelle aussi, ça doit être, comment je pourrais dire, ça doit être quand même demandant de dire OK, là, ça y est, on fait la bande-annonce du E3, là, on doit vraiment pas se planter, c'est maintenant,
non,
ou jamais.
C'est, ça. Pour... c'est là qu'on commence à faire beaucoup d'heures par semaine.
Oui. clin d'œil. Sinon, bon, on est à la fin de Far Cry 5. Comme j'ai parlé tantôt, il y a une transition d'un projet à l'autre. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer ou amener à un prochain niveau lors du prochain projet?
En fait, ce que je vais vouloir développer, c'est les outils.
Oui.
Parce qu'on a développé beaucoup d'outils de base sur Far Cry 5 pour la capture, ces trucs-là. Puis dans le fond, ça serait vraiment de tout aller peaufiner ces outils-là, parce qu'il y a encore quelques problèmes. On perd du temps encore à faire des trucs qu'on pourrait peut-être avoir un outil qui nous aiderait, genre, à sauver du temps. Je vais pas trop dire de...
Non, mais il faut garder un suspense, Yann.
C'est ça. Mais non, je travaillerais beaucoup sur les outils. Sinon, côté plus approche. Ça, c'est quand même intéressant.
C'est sûr, après ça, ça doit dépendre du thème du prochain jeu et ainsi de suite. Là. Vous allez, bon, éventuellement, peut-être développer d'autres idées de produits. Puis j'imagine que ça alimente un peu ça, comme tu disais, bon, le dernier se passait dans le Montana, c'est plus la nature, c'est plus proche de nous, tu voulais y aller plus documentaire, ouais, ouais. Donc peut-être...
Mais dépendamment de ce qui va être, inspirant par rapport au prochain sujet.
Exemple, ça se passe dans une usine de clowns, ben ça risque d'être différent, quoi.
Exactement, j'ai peut-être une approche plus colorée, mettons.
Notamment! Très bien, Yann. Bon, là, c'est le moment vraiment où tu dois plugger sur quoi tu travailles. Où est-ce que je peux trouver Far Cry 5?
Partout!
Oui, c'est ça, la magie!
Faudrait citer comme les vieilles publicités là, chez Walmart, Vidéotron, Microplay...
Renault Dépôt!
Renault Dépôt, Home Hardware! Non, dans tout bon magasin de jeux vidéo qui se respecte.
Donc, c'est ça, ça vaut la peine. C'est un monde immersif en Amérique... C'est une réflexion.
Beaucoup de surprises, des bons personnages.
Fantastique. Ben, un gros merci à toi, Yann. Ça a
merci,
été
Pat.
Plaisant, palpitant, touchant.
Touchant.
Un gros merci à toi.
Ça fait plaisir.
Donc oui, nous voilà déjà de retour à l'appartement. J'aimerais y aller d'ailleurs avec quelques remerciements. Donc d'abord, un gros merci à toi, Yann, évidemment. Si tu n'aurais pas été là, ça aurait été une entrevue un peu ennuyante. J'aimerais aussi remercier Maxime Ladue, qui initialement, je dois l'avouer, devait faire partie de cette conversation-là. Mais malheureusement, ses obligations l'ont amené à aller plutôt du côté du pack Ace. Donc Maxime a beaucoup aidé pour définir vraiment qu'est-ce que pourraient être des paramètres intéressants de l'entrevue. Donc un gros merci à toi, Maxime. Parlant de contenu, parlant de paramètres, j'aimerais bien évidemment remercier les auditeurs qui ont laissé des questions pour cet épisode-là. J'espère que les réponses que j'ai été capable de dégoter dans le contexte de cette entrevue ont su répondre à vos questionnements. Du côté de l'équipe de Poutine à deux, j'aimerais remercier Benji Pesque pour l'identité visuelle de cet épisode, ainsi que Julien Brault pour l'identité sonore. Comme j'ai mentionné, de temps en temps, nous invitons les auditeurs dans le processus créatif de nos épisodes. Donc, si vous voulez prendre part, qui sait, au prochain enregistrement de Poutine à 2, c'est très simple. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Poutine à 2 est présent sur Facebook et Twitter. Cherchez tout simplement l'indicateur Poutine à 2 dans le même pain de texte. Je vais l'appeler pour vous. P-O-U-T-I-N-E-A-D-E-U-X. Cherchez-nous soit sur Facebook et Twitter. Vous allez nous trouver. Bien évidemment, nous avons un autre épisode de Poutine à deux qui s'en vient. Le prochain épisode va être disponible le mercredi 9 mai prochain, donc préparez-vous. Sinon, entre-temps, de mon côté, je travaille aussi sur un autre podcast qui se nomme « Les jeux sont faits ». Cette fois-ci, le concept, c'est que nous parlons actualité de jeux vidéo, mais avec une perspective de développeur. En attendant, si vous voulez écouter d'autres choses que Poutine à deux, cherchez « Les jeux sont faits ». Sur ce, on se dit à la prochaine. Au revoir!
Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro d'étaulier. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. L'Étaulier, une émission Radio Kawa.
Mais faut quand même faire un peu gaffe aux fautes d'orthographe.
Bonjour, je m'appelle Perrine Andrieux et je vous invite à découvrir Les Pressés de l'Expression. C'est le podcast Travail et langue française. Apprenez à mieux vous exprimer dans un cadre professionnel et soyez plus à l'aise à l'écrit comme à l'oral lorsque vous vous adressez à vos collègues, à vos clients ou à vos supérieurs. Je vous propose des épisodes courts, réguliers et en libre téléchargement avec des recommandations qui passent toutes seules. Ce que je vous raconte est documenté et se base le plus souvent sur les positions de l'Académie française, l'avis des sémiologues et une utilisation approfondie du dictionnaire. Retrouvez-moi un jeudi sur deux sur Radio Kawa.
Toi, auditeur, tu es en quête d'un rendez-vous mensuel qui parle dans les longueurs de toutes tes passions? Tu cherches une fenêtre vers tout ce que le Japon peut faire, même de plus barré et niché? Ne cherche plus!
LOL Japon est un podcast long format, animé par Amo et Concombre, mêlant bromance et japonaiserie, dédié aux animés, manga et leur industrie, jeux, cinéma. Tout y passe en statut culturel, dossier et quatre rubriques qui changent à chaque numéro. Aucune limite de temps, de ton ou de genre, avec des invités ou non.
LOL Japon est un podcast mensuel disponible sur Radio Kawa, iTunes et les applications dédiées, diffusé en direct un vendredi par mois.
Plus c'est long, plus c'est bon, tout est bon dans le Japon.